L'invité.
Dans l'évangile de Marc, Jésus nous dit « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création ». Voilà un verset qu'un groupe de missionnaires et de chrétiens d'église lyonnaise et d'ailleurs a décidé de faire sien pour la deuxième année consécutive. Amateurs de musique, ils préfèrent ceux qui bougent et ceux qui chantent fort, la musique métal. C'est donc tout naturellement qu'en juin, ils retourneront à Clisson, dans l'ouest de la France, avec 500 Bibles, pour participer à l'un des plus grands festivals de métal en Europe et le premier en France, le Hellfest. Pour nous parler de ce projet, Lucas Munoz, responsable de Jeunesse en Mission Lyon et membre de l'équipe, bonjour.
Bonjour.
Comment vous est venue l'an dernier l'idée d'aller faire de l'évangélisation sur un festival de métal ?
La jeunesse de ce projet, c'est un rêve en fait. J'ai toujours eu à cœur quand je voyais des reportages sur le Hellfest. Pour rappeler, c'est le plus gros festival de métal en France, donc de hard rock en France, et c'est le deuxième en Europe, c'est quelque chose d'assez énorme. Ben, c'était un rêve d'aller offrir la Bible, la parole, là-bas. Chaque année, je vois des reportages sur ce festival en France. Il y a plus de 160 000 personnes qui vont à Clisson pendant ces jours. Et donc, le milieu métal, j'étais beaucoup dedans avant de rencontrer Jésus, quand j'étais ado, etc. Et c'est des gens que j'ai toujours eu à cœur, que j'ai encore à cœur, j'ai encore des amis qui aiment beaucoup le métal, qui jouent dans des groupes métal encore maintenant et que je vois de temps en temps. Et c'est des gens que j'ai à cœur et à qui j'ai envie de témoigner. Et j'avais ce rêve d'aller là-bas un jour avec une petite bande de motivés, quoi, parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu qui fait peut-être peur à certains chrétiens. On a accueilli dans l'équipe de Jeunesse en Mission un couple de Brésiliens, dont Roméo, qui était vraiment un évangéliste dans le milieu métal là-bas au Brésil. Au Brésil, il y a beaucoup de chrétiens évangéliques. Ils utilisent tous les moyens possibles pour aller à la rencontre des gens et que ce soit utiliser la musique rap ou la musique métal, il n'y a pas de problème pour eux. C'est lui qui m'a parlé de ce festival. Tiens, et si on allait distribuer des Bibles à ce Hellfest ? Et moi, pour moi, ça a fait tilt dans mon cœur parce que ça fait 4 ans que je rêve d'y aller. Et je me suis dit, allez, chiche, on y va, on va en parler autour de nous, on va prier par rapport à ça. Et on va voir si on rencontre des motivés. Et les motivés n'ont pas tardé à se manifester.
Vous avez donc trouvé du monde, vous êtes parti à 5 l'an dernier, c'est ça ?
Oui, l'an dernier, on est parti à 5. Des chrétiens qui sont convaincus, qui savent en quoi ils croient, hein, qui n'ont pas peur d'afficher la couleur et leurs convictions. Mais en même temps, il faut que ce soit des gens aussi qui aient l'oreille habitué au métal, hein, parce que il faut être conscient que sur le terrain, on vit vraiment avec les métalleux, on vit dans le camping avec eux, et les concerts là-bas, ils commencent à 10h le matin, et ils terminent à 3h le matin, du jour d'après. Donc il y a toujours des concerts métal en fond, et c'est vrai que si tu es habitué à écouter du classique, ça va être difficile ces 3 jours. Donc moi je sais que j'en écoutais beaucoup étant adolescent, on va dire, mais là, en 3 jours, je fais ma cure de métal pour l'année, pour être franc avec vous.
Comment ça s'est passé alors votre première fois ? J'imagine que vous y alliez sans trop savoir peut-être comment vous alliez mener ce projet-là. Comment vous êtes revenu, j'ai envie de dire presque, de votre première fois au Hellfest en tant que missionnaire là-bas ?
C'est vrai qu'on n'y allait pas en mode conquistador, hein. On n'y allait pas en se disant on va faire ci et ça. On a acheté 100 de Bibles, on prend pas n'importe quelle Bible, c'est une édition qui s'appelle la Bible du métal. Donc c'est le Nouveau Testament en version Summer, donc c'est un texte des évangiles qui est assez accessible. De part et d'autre de ce Nouveau Testament, il y a beaucoup de témoignages de gens, jeunes ou moins jeunes hein, d'ailleurs, qui étaient vraiment investis dans le milieu du métal, qui ont rencontré Jésus et comment il a transformé leur vie. Donc c'est vraiment des témoignages de personnes qui étaient, dont certains qui jouent dans des groupes comme Brian Welch, le guitariste de Korn, qui était complètement accro. Il a un témoignage assez impressionnant, cet homme-là, et tout le monde le connaît dans le milieu métal encore aujourd'hui. Et tout le monde a vu son témoignage, en plus, hein, quand on en parle aux jeunes, tout le monde a vu son témoignage sur YouTube, où vraiment il témoigne de comment Jésus-Christ est rentré dans sa vie, comment il l'a délivré de l'alcool, de la drogue, comme ça, à l'instant, de manière instantanée, et comment ensuite il a été un témoin. C'est un témoignage assez intéressant, je trouve, parce qu'il a complètement coupé avec le milieu métal, avec le groupe dans lequel il jouait. Et ensuite, il a fait un album solo où il affichait vraiment sa couleur et il chantait l'évangile toujours avec sa sensibilité métal. Et au bout d'un temps, il a eu cette conviction. Dieu lui a dit « Maintenant, c'est bon, t'es sevré de l'alcool et de la drogue. Tu peux retourner pour être un témoin dans le milieu où tu étais. » Et donc, il est retourné dans le groupe Korn. Il continue à jouer sur scène avec ce groupe. Mais il est clean et il est un témoin là où Dieu l'envoie. Et je trouve que c'est une bonne illustration de ce verset qui nous dit que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'était un peu l'idée aussi d'aller témoigner là-bas. Quand je racontais le projet à certains chrétiens, on me disait oh, « Mais non, mais là-bas, tu te rends compte, c'est le festival de l'enfer, il ne faut pas y aller, vous vous exposez à des... » Mais il y a ce verset qui résonnait toujours en moi en disant « Mais celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc du moment que moi je suis ferme dans mes convictions et que je suis clean dans mon cœur, et que j'ai pas de porte ouverte, je peux aller n'importe où avec Jésus. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde.
Les métalleux, les amateurs de hard rock ont un look un peu anticonformiste. On le voit bien avec le nom du Hellfest qui est aussi volontairement provocateur. C'est un milieu qui se jouent des provocations. Du coup, ça fait forcément un peu peur aux chrétiens. C'est une catégorie de la population qui a assez peu accès à l'évangile. Comment ont-ils reçu votre présence sur place? Quels sont les retours que vous avez pu avoir sur place?
C'est ça. Il y a des missionnaires qui vont dans des peuples non atteints, qui vont à l'autre bout du monde pour partager l'évangile à des gens qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Et j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences comme ça, dans le désert de Gobi, en Mongolie ou quoi. Et c'est vrai que c'est super d'avoir ce privilège de dire, tiens, dans cette famille, je vais leur partager l'évangile, je vais leur parler de Jésus, alors qu'ils n'ont jamais entendu ce nom de Jésus. C'est une expérience incroyable. Mais de nos jours, dans nos cités, on a des tribus qui sont non atteintes. Il y a des gens qui sont dans des cercles d'amis ou dans des styles de vie où ils ont peu accès à l'évangile. Et c'est vrai que quand on distribue des bibles, par exemple le 8 décembre, ou si vous distribuez des tracts avec votre église ou quoi par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est habillé en noir de la tête aux pieds avec de la chaîne et des clous et un t-shirt Marilyn Manson, l'antichrist, ça va pas être la première personne après qui vous allez courir pour lui partager l'évangile. Vous allez vous dire, et peut-être à tort, cette personne, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas intéressée. Et du coup, c'était vraiment l'idée d'aller à la rencontre de ces jeunes et de ces moins jeunes, hein, parce que vraiment, de 17 à 77 ans, on retrouve un petit peu de tous les âges. Mais le but, c'était vraiment d'aller à leur rencontre avec un petit sondage qu'on a fait exprès pour eux, pour que ce soit des questions qui leur parlent, qui soient adaptées à leur langage et à leur culture. Et vraiment pour leur demander, mais en quoi est-ce que vous croyez, vous, les métalleux? Est-ce que vous croyez en Dieu? Sur quelles valeurs est-ce que vous fondez vos vies? Et vraiment, il y avait plusieurs questions comme ça. Est-ce que tu crois en une vie après la mort? Pour qu'ils puissent se confier et pour qu'ils puissent nous dire en quoi est-ce qu'ils croient. Et c'est vrai qu'on a vu en général que les gens qui sont au festival de métal, et ben, c'est pas des trafiquants de drogue ou des toxicomanes. Pour la plupart, c'est des gens qui ont fait des hautes études. Hein. Il y a beaucoup des ingénieurs, des informaticiens, des bacs plus 8 et quelques. C'est pas n'importe qui qu'on rencontre là-bas, derrière leur look peu conventionnel. Et ensuite, pour ce qui est de la religion et de la foi, 80% des gens qu'on a rencontrés là-bas se disaient athées. C'était intéressant de pouvoir leur parler, de voir qu'est-ce qu'ils avaient comme conviction dans la vie. Et ensuite, on pouvait leur dire que nous, on était chrétiens. Et le fait qu'on les ait écoutés, ils disent athées, mais pourtant ils croient en la nature, en une puissance créatrice. Et quelque part, il y en a beaucoup, ils reviennent aux cultures païennes et aux cultes païens d'avant, sans même s'en rendre compte, je dirais, quand tu parles avec eux. On dit oui, ça prend 2 minutes, mais généralement on se met à parler pendant 20 minutes. Ils nous racontent leur façon de voir la vie. Et du fait qu'on les ait écoutés, qu'on ait pris le temps de les comprendre et d'essayer de voir leur vision du monde, et ben ensuite, eux aussi, ils nous fournissent une qualité d'écoute. Et on peut leur dire que voilà, qu'on est chrétien convaincu, et on peut leur partager notre façon de voir le monde, notre foi, notre témoignage très souvent. Hein. Mon témoignage, et hop, il arrive. Et parce qu'ils sont surpris, ils disent, attends, vous êtes chrétien, mais qu'est-ce que vous faites ici, quoi, pendant le Hellfest, quoi. Et ça ouvre des super conversations, justement. Et très souvent, donc je partage mon témoignage, et ensuite on propose la prière. Des fois, on le sent pas. Des fois, il y a des gens qui sont dans une attitude de moquerie où on se dit, bon, bonne fin de journée, on va s'arrêter là. Mais très très peu. Il y a peut-être 5 ou 10% de moqueurs. Et encore, c'est parce qu'ils ont commencé l'apéro tôt, généralement. Mais sinon, la plupart des gens, on peut vraiment avoir des bonnes conversations posées avec eux. Et quand je leur donne mon témoignage, et qu'après je leur dis, si vous voulez, je peux vous offrir ce Nouveau Testament, si ça vous intéresse et si vous voulez la lire, 90% des gens avec qui j'ai parlé, ils prennent ce Nouveau Testament. Et après, la prière, on la propose aussi. Et on a eu des bons rendez-vous, des temps sympas aussi, par le témoignage et par la prière, quoi.
Vous êtes un habitué du témoignage, hein, c'est votre job en tant que missionnaire.
Ah, je dirais non, on n'est jamais habitué, en fait. On sait ce que Jésus il a fait dans notre vie, et on connaît ce qu'il a fait à la croix aussi. Et après, on y va avec humilité, en écoutant la personne, hein. Pas en y allant comme un bourrin. On n'impose pas nos convictions à coups de marteau, mais on écoute la personne, on partage la vérité qui a changé notre vie. Et surtout, on a une oreille, on écoute la personne, mais on écoute aussi Dieu. Et vraiment, il y a des paroles et des inspirations qui viennent d'en haut, des idées, des pensées qui font toute la différence, quoi. Et c'est là qu'il faut jamais se dire, ouais, je suis professionnel, je sais faire. Je sais que souvent, j'ai vu des jeunes qui s'étaient convertis, qui avaient quelques semaines de conversion, vraiment être puissamment utilisé par Dieu, justement parce qu'il y avait cette dépendance vis-à-vis de Dieu à se dire, mais je suis pas capable, aide-moi. Et moi, c'est un truc que je veux vraiment garder, qu'il faut tous qu'on garde, quoi, le fait d'être dépendant de Dieu et de jamais se dire, je connais, je sais faire et je vais leur donner la leçon, quoi.
Malgré tout, vous le faites quand même depuis quelques années de témoigner. Est-ce que c'est plus facile pour vous de témoigner dans les rues du 8 décembre par exemple, parce que vous le faites aussi depuis quelques années, ou dans un festival comme ça de métal?
C'est plus facile au Hellfest parce que déjà il fait plus chaud, hein. Il faut dire que le 8 décembre on se caille un petit peu. Non, je rigole. Non, mais je me sens pas plus qualifié au Hellfest qu'au 8 décembre. Et à chaque fois, je veux me dire, Seigneur, ça dépend pas de moi, mais ça dépend vraiment de toi. Et je peux pas dire que j'ai moins de crainte au 8 décembre qu'au Hellfest. C'est, pour moi, c'est vraiment la même chose.
On a beaucoup parlé de ce que vous aviez fait l'an dernier au Hellfest.
On peut parler que de ça parce que c'était une première.
Donc, oui, mais on va quand même aussi un peu parler de ce que vous avez prévu de faire cette année. Hellfest épisode 2, en juin, normalement, si tout se passe bien.
Oui, on a réservé les places pour cette année-là, oui. On a l'équipe qui est un petit peu plus fournie, bien qu'on n'ait pas fait beaucoup de com, mais c'est venu par le bouche à oreille. On a décidé d'y retourner donc les 3 jours. Et cette fois, d'y aller avec 500 bibles.
C'est un challenge, parce que vous multipliez par 5 le nombre de bibles alors.
Oui, on va être plus actif et à l'intérieur du camp, comme on le faisait avec des sondages, et aussi à l'extérieur du camp. On les avait jamais rencontrés, ces gens, enfin on les a toujours jamais rencontrés en fait, on les a pas rencontrés l'année dernière, mais on a su qu'il y avait un groupe de chrétiens qui était à l'extérieur du Hellfest, parce que du coup il n'y avait pas d'œuvre d'évangélisation qui se faisait à l'intérieur du camp, mais à l'extérieur, il paraît qu'il y a des chrétiens qui proposent la prière et qui vont à la rencontre des gens, donc on va aussi rejoindre ce groupe et être et à l'intérieur et à l'extérieur du festival. Le but, c'est de mettre la barre plus haute et de se lancer des défis à chaque fois. Ouais.
Vous parliez tout à l'heure de Brian Welch, donc le guitariste du groupe Korn. On peut en citer d'autres, des métalleux qui se sont convertis, Dave Mustaine, l'ex-guitariste Megadeth, Nico McBrien, le batteur d'Iron Maiden. Ce genre de témoignage, c'est quelque chose qui joue en votre faveur, un petit peu quand vous avez l'impression d'avoir des billes à apporter aux métalleux, en leur disant « Regardez, eux aussi gagnent même leur vie avec ça, et pour autant, ça ne leur empêche pas de croire en Jésus. »
C'est vrai que le fait qu'il y ait des témoignages de personnes qui connaissent, et de célébrités qui connaissent et qui sont identifiées dans le milieu du métal, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont justement interpellés par le fait qu'il y ait ces gens-là qui croient et que ces témoignages ils soient mariés avec le Nouveau Testament. Et je pense qu'il y a plus d'un jeune qui prend le Nouveau Testament pour lire les témoignages, justement, et que c'est ensuite un pont, comme on veut être un pont aussi entre nous et Jésus, pour les inviter, les défier à lire le Nouveau Testament. Et quand on voit comment elle est composée, cette Bible du métal, elle est vraiment faite pour ça, pour interpeller les jeunes avec la musique qu'ils écoutent, et vraiment avec les témoignages de ces personnes qui ont vraiment changé d'orientation et de vie, pouvoir vraiment les interpeller sur le fait que cette histoire de Jésus, ce Nouveau Testament, cet évangile de vie, ça peut vraiment être efficace et transformer des vies encore dans notre siècle, quoi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent la Bible pour lire les témoignages et qui ensuite ont tout le Nouveau Testament à portée de main.
Vous voulez être un pont, effectivement, entre ces métalleux et Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas aussi, finalement, une forme de pont entre les églises et les métalleux, les églises qui connaissent mal, peu, ces métalleux-là? Est-ce que vous avez pu apporter peut-être aussi des choses à vos églises respectives, puisque je crois que vous êtes quasiment tous d'églises différentes en plus?
Oui, on va presque tous dans des églises différentes. Et oui, moi c'est clair qu'on a pu témoigner dans des pastorales, dans des églises, et aussi dans des conventions missionnaires, hein, parce que à Jeunesse en Mission, c'est pareil, j'ai pu en témoigner aussi. Et c'est vrai que c'est dommage parfois, il y a plusieurs endroits dans la parole où on nous dit de vraiment de pas faire de considérations superficielles, de pas favoriser le riche par rapport au pauvre, de pas faire attention au physique des gens et que tout le monde a le droit d'entendre l'évangile. Et je pense que inconsciemment, parfois, dans le monde dans lequel on vit, on a tendance, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, à juger les gens à la tête. Et des fois, il faut vraiment qu'on se fasse violence nous-mêmes, et puis juste qu'il y ait une espèce de prise de conscience, de se dire, mais non, faut aller au-delà des apparences, faut aller au-delà du physique et de l'habillement des gens, parce que tout le monde a le droit à l'évangile. Et je l'ai constaté tellement de fois dans la rue, où je me disais peut-être au premier abord, mais non, ce gars, regarde, tu croises des barbus, ou tu croises des femmes voilées, etc. Tu te dis, non, mais eux, c'est des musulmans, ils ont déjà leur religion, ils sont convaincus, regarde, jusque dans leur habillement et tout. Et c'est avec ces gens-là, par exemple, que tu vas avoir des discussions super profondes, que tu vas pouvoir prier et que tu vas vraiment voir le Saint-Esprit qui commence à les toucher d'une manière, quoi. Si j'étais pas allé au-delà du visuel, je serais passé à côté d'un rendez-vous de Dieu que cette personne avait ce jour-là, quoi. Et donc avec les métalleux, c'est pareil. Parfois on voit des t-shirts Iron Maiden ou etc. C'est clair, c'est fait, c'est designé pour être provocant, quoi. Il y a des têtes de mort, il y a du sang. Et pour le chrétien traditionnel, ça peut refroidir, hein, et ça peut les encourager à faire un pas en arrière plutôt qu'aller à la rencontre de ces gens. Et c'est bizarre parce que ces gens, intérieurement, souvent, ils sont très ouverts, ils sont très respectueux, ils aiment pas être jugés, c'est clair. Mais en même temps, c'est des gens généralement qui réfléchissent beaucoup sur la ville, plus que le français moyen, je trouve, et avec qui on peut avoir des conversations vraiment intéressantes. Et généralement, c'est des gens qui sont ouverts au monde spirituel, mais qui sont ouverts à tout et n'importe quoi. C'est ça, un peu ça le problème. Et c'est vrai que souvent, il y a de l'ésotérisme, de la voyance, et qui peuvent être ouverts à différents courants spirituels. Ils sont pas du tout bons pour l'épanouissement personnel et puis pour la spiritualité en général, on en sait quelque chose. C'est justement là où nous, il faut qu'on soit des témoins et qu'on puisse partager ce qu'on vit avec l'évangile.
Et contrairement aux préjugés, ils sont pas tous satanistes?
Non, non, franchement, sur tous les sondages qu'on a faits, on en a rencontré un, je crois. Et encore, je peux même pas vous dire si c'était vraiment vrai ou si c'était juste pour nous faire de la provoque. parce que j'ai essayé d'aller plus loin, plus profond dans la conversation et tout, pour voir, tiens, qu'est-ce que c'est vraiment, comment tu vis ta relation avec l'autre côté, quoi, pour aller franchement dans la conversation. Et cette personne, elle était fuyante, elle, je sais pas si elle essayait de nous faire peur, mais sans vraiment y arriver. Mais pour moi, je sais même pas si c'était pas une personne qui provoquait juste, mais qui pratiquait pas vraiment le satanisme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup de gens qui se déguisent. Franchement, quand on est là au milieu, on a plus l'impression d'être au milieu d'un carnaval avec des grands gamins qui s'amusent et qui forcent un peu sur l'apéro, hein, c'est clair. Mais en même temps, j'ai pu constater vraiment une fraternité et un respect que j'ai rarement vu ailleurs. Vraiment. Donc tout le monde s'alcoolise pour se mettre en ambiance et tout. Bon, quand je dis tout le monde...
L'alcool est dangereux pour la santé, on le répète, voilà. C'est important.
À consommer avec modération. Mais c'est clair que moi, par exemple, dans ce temps-là, c'était un temps où j'étais en jeûne, et notamment en jeûne d'alcool, bien sûr, pour être vraiment bien à 100% à disposition du temps qu'on allait vivre. Mais dans ces concerts, etc., j'ai vu des gens qui étaient alcoolisés, super alcoolisés. J'ai jamais vu une bagarre. La seule fois que j'ai vu le ton monter et deux personnes se bousculer, donc sur 160 000 personnes, hein, donc c'est énorme. Mais la seule fois où j'ai vu deux personnes se bousculer, il y en a immédiatement cinq autour d'eux qui ont ramené la paix, qui ont intervenu, non, les gars, et tout, et c'est la fête. Et en fait, moi, j'étais vraiment interpellé aussi par cet esprit de camaraderie, de fraternité qu'il y avait là-bas, et que je m'attendais pas à trouver spécialement. Parce que quand on fait des grosses fêtes, comme on a l'habitude de faire, hein, avec Jeunesse en Mission, on fait le Festival d'Avignon, on est présent pour le 8 décembre, et on fait des choses sur Paris, etc. Souvent, dans la rue, dès qu'il y a un petit peu la fête, dès qu'il y a un petit peu de personnes qui s'alcoolisent, il arrive souvent à avoir des petites chamailleries et des petites bagarres à gauche à droite, et là, pas du tout, quoi. Alors que je m'attendais à plus d'animation à ce niveau-là, quoi.
Vous avez eu aussi des vrais bons moments de partage avec certains festivaliers. Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a particulièrement marqué lors de cette dernière édition de Duelfest ?
Oui, il y a eu des rencontres qui nous ont marqué, vraiment des rendez-vous de Dieu. Il y a des gens pour qui, bah oui, je repris régulièrement. Il y a eu des choses légères. Un gars qui est venu au camping le deuxième soir pour nous vendre de l'herbe. Le gars, il arrive pour dealer. Mais du coup, on a pu lui dire non, t'aurais dû venir 15 années avant, on aurait été des bons clients. Mais figure-toi qu'on est des. Et on lui explique qu'on est des chrétiens, qu'on est là pour distribuer des Bibles. Donc il hallucine et du coup, il s'assoit avec nous et on raconte nos témoignages, on est resté parler une heure avec lui, et ça a été un super temps de partage, et il hallucinait, et à mesure qu'on parlait, et à mesure qu'on témoignait, il s'arrêtait de temps en temps en disant « Ah ouais, mais alors, du coup, mais vous êtes des vrais chrétiens alors ?» Et vraiment, ça a été un temps où il a pas fait de démarche à la fin, mais vraiment, il a été interpellé, et on a pu avoir une super conversation, et c'est des gens comme ça que je garde en prière. Mais celui à qui je pense le plus, quand on parle de témoignage, c'est un jeune qui s'appelait Guillaume, on va l'appeler Guillaume, j'ai pas envie de dire son prénom, mais je l'ai rencontré le premier jour avec un sondage, et il m'a raconté combien il était orphelin, il a perdu ses parents très tôt, et il a connu plein de souffrances dans sa vie. Très jeune enfant, il a vécu des choses très difficiles et il était révolté contre Dieu, contre les religions, contre le monde, et il attendait qu'une chose, c'était la mort, quoi. J'ai essayé de lui parler de Jésus, j'ai essayé de lui donner mon témoignage, de lui proposer la Bible, et il était fermé, c'était un mur de pierre, juste inaccessible. Et donc on s'est quitté comme ça, et je l'ai gardé en tête, et vraiment la nuit même, j'intercédais, je priais, je disais à Dieu, mais fait que je puisse le re-rencontrer le lendemain, quoi. Mais va trouver un gars tout habillé en noir, avec des lunettes noires, au milieu de 160 000 personnes qui sont habillées exactement pareil. Vraiment, mais le miracle, il s'est accompli. Je traversais la foule à un moment et c'est lui qui m'a fait un signe. Donc je suis vraiment allé vers lui, je lui dis, écoute Guillaume, c'est un signe de Dieu pour moi. J'ai prié hier soir, et est-ce que je peux prendre un temps de prière pour toi, vite fait. Ça va durer 2 minutes, je garde les yeux ouverts, et juste pour te bénir, j'ai vraiment à cœur de le faire. Il me dit, bah pourquoi pas, hein, on avait eu une conversation profonde la veille, on va dire. Et je prie pour lui, je le bénis, j'invoque vraiment la vie de Dieu et que le Saint-Esprit l'éclaire. Je prie Jérémie 29, 11, hein, que Dieu il connaît les projets qu'il a formés sur lui, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, une espérance. Et j'ai à cœur aussi de briser des esprits de mort, de tristesse, de dépression, de suicide aussi sur sa vie. Et quand j'ouvre les yeux, le visage de cette personne, elle a complètement changé. Il me regarde avec des grands yeux comme ça et il dit, mais il s'est vraiment passé quelque chose à l'intérieur, qu'est-ce que t'as fait ? Je dis, ben, on a juste prié, Dieu il était avec nous et il a commencé à transformer ta vie, il a commencé à agir en toi. Maintenant, voilà, les choses dont je te parlais hier, c'est vraiment vivant et puissant encore aujourd'hui. Et du coup, il me dit, mais hier, tu m'as proposé une Bible. Est-ce que tu en aurais encore une sur toi ? Et du coup, forcément, j'avais mon sac à dos plein, tac, j'ai dégainé et je lui ai offert la Bible. Et je lui ai proposé s'il voulait qu'on se revoie quand j'étais sur Paris et tout, et que j'avais des amis chrétiens à lui présenter, etc. Là, il a été un petit peu plus frileux. Mais voilà, c'est pas le but. Je crois qu'il avait un témoignage et la prière à recevoir ce jour-là, et qu'il les a reçus, et que Dieu, il a commencé à œuvrer dans sa vie. Et qu'il est parti avec ce Nouveau Testament, une semence incorruptible, et je continue à prier pour lui, comme pour beaucoup de ces jeunes à qui on a offert ces 100 Bibles, pour que vraiment le fruit de la foi, il puisse vraiment continuer à pousser dans leur vie.
On vous souhaite encore de vivre encore plein de belles choses comme ça cette année.
Oui, et il y a une autre, j'ai une fille justement qui se moquait un petit peu en disant « Ah, vous distribuez la Bible, c'est drôle ça. Tiens, bah ça c'est la parole de Dieu, alors on va voir ce qu'il me dit Dieu. » Et elle ouvre la Bible comme ça, et elle prend un verset, et le verset sur lequel elle tombe, c'est « Enfants, soyez soumis à vos parents. » Et là, tu sens qu'il y a une colère en elle, et elle me dit « Ah ouais, enfants, soyez soumis à vos parents. » Moi, ma mère, je rentrais de l'école, je faisais rien de mal, juste le fait que je passe la porte, et ben, elle avait déjà bu un litre de vin, et la première chose qu'elle me faisait pour m'accueillir, c'est me mettre une claque. Alors moi, je dois être soumis à mes parents, c'est ça? Et je lui ai dit « Non, écoute, ce que t'as vécu, c'est pas ce que Dieu veut qu'on vive, évidemment. » Et je lui ai pris le passage, je lui ai dit « Regarde, à côté de cette citation, il y a « Parents, n'irritez pas vos enfants ». Moi, je venais juste d'avoir une petite fille, un petit bout de qui avait 6 mois à l'époque, et je lui ai parlé, voilà, de combien j'aime ma fille et combien Dieu il l'aime, elle aussi en tant que fille, combien c'était son petit bébé. Et j'ai pu lui parler du cœur de père de Dieu et de l'amour de Dieu pour elle, mais malheureusement de toutes les choses difficiles qu'on vit dans ce monde qui est pas parfait, quoi. Et du coup, ça a complètement changé sa perspective, et du coup, elle a accepté la Bible et elle est repartie avec la Bible alors qu'elle était là vraiment pour se moquer de nous. Et il y a eu plusieurs conversations comme ça où vraiment il y a les paroles qui et l'inspiration qui vient de Dieu et des gens qui changent d'attitude et qui repartent avec le Nouveau Testament.
On vous souhaite en tout cas de pouvoir distribuer vos 500 Nouveaux Testaments cette année. Mm-hmm. Un mot peut-être pour tous ceux qui seraient intéressés par votre projet, qui auraient donc bien sûr à cœur de prier pour vous, ça j'imagine que...
Moi c'est surtout pour ça que je voulais en parler, parce qu'on a vu des gens touchés et on a vécu des belles rencontres l'année dernière, mais on n'a pas vu de gens faire le pas, vraiment se repentir et accepter Jésus dans leur vie. Et j'ai vraiment eu cette conviction qu'il fallait qu'on recrute une armée d'intercesseurs cette année derrière nous, et que plus on a de gens qui prient pour nous, et plus les fruits et l'impact sera différent. Et donc voilà, moi si je suis là spécialement, c'est pour demander à des gens de nous porter dans la prière quand vous entendrez parler du Hellfest.
Merci beaucoup Luc Eminoz, on rappelle que vous êtes responsable de Jeunesse en Mission Lyon.
Avec plaisir, merci beaucoup de votre accueil en tout cas.
Si vous avez donc à cœur de prier pour l'équipe, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi les soutenir financièrement, ils ont mis en place une campagne Litchi. Vous pouvez aussi les retrouver sur la page Facebook Metal Mission FR, sur le site metal-mission.fr ou leur envoyer un mail à l'adresse contact@metal-mission.fr.